Nous sommes ici aujourd'hui dans ce centre culturel Blamba, situé à Bamako, Bako Dikorni. Voilà, je retiens le nom exact du quartier. C'est juste derrière, c'est derrière le fleuve Niger.
Rive droite du fleuve
Voilà,
Niger.
sur la rive droite du fleuve Niger. Et nous avons l'immense honneur d'être reçus par le propriétaire Alioune Ndiaye. Bonjour.
Bonjour, Kloali.
Alors, nous sommes très heureux d'être là dans ce centre culturel, on va dire multidimensionnel, puisqu'il y a plusieurs disciplines artistiques qui s'expriment ici. Mais il y a une histoire justement derrière le Blamba, et puis il y a aussi la réalité du moment. Voilà, ce problème, la fermeture de ce centre pour des problèmes dont vous allez donner les raisons au cours de cette interview. Alors, mais il est important de comprendre comment est né ce centre, comment la création s'est faite.
Bon, Blamba, c'est avant tout un complexe. C'est un complexe culturel qui a été un peu organisé sur une superficie d'environ 1 hectare, avec 3 salles. Une salle ouverte, qui est multifonctionnelle, qui reçoit entre 150 et 400 personnes selon l'aménagement. Et puis une seconde salle qui est fermée, climatisée, qui est multifonctionnelle aussi, qui est destiné au théâtre, au cinéma, à la musique intime, c'est-à-dire au spectacle intime, qui, selon aussi son aménagement, peut recevoir entre 100 et 300 personnes. Et puis une salle de cinéma qui n'est pas finie, qui est en chantier, qui est une salle de cinéma de 450 places, une salle de cinéma moderne. Tout. Ce lieu, cet espace a été imaginé pour organiser ce que j'appelle une offre régulière et organisée artistique et culturelle au public bamakois. Mais aussi pour être un laboratoire pour recevoir les nouvelles formes de création, un laboratoire pour former dans les nouveaux métiers technique, artistique, de la culture, mais aussi faire de telle sorte que nous puissions aussi penser le récit national. Je dirais repenser le récit national en questionnant le passé et voir quelle identité nous pouvons construire et inscrire dans une dynamique Mali, mais aussi une dynamique de la sous-région, pour que nous puissions impacter la construction d'une nouvelle citoyenneté qui va participer à la conversation mondiale avec des enjeux comme la préservation de la planète, de notre environnement, avec des enjeux comme la culture numérique, avec des enjeux comme les énergies renouvelables, mais avec des enjeux qui, à peu près, nous permettent de sortir de ce cercle infernal, surtout pour le Mali, où nous avons comme réflexe et de nous ancrer dans le passé et de faire que le Malien lambda définisse exclusivement son présent que par le passé. Donc nous essaierons de travailler à questionner ce dysfonctionnement-là, à faire que la culture, à partir de ce laboratoire qu'est le complexe culturel Blamba, puisse intervenir pour contribuer à la construction d'une citoyenneté moderne, d'un citoyen malien qui définisse son présent par le futur à construire ensemble, au-delà des contingences ethniques, au-delà des contingences de raciales, etc., etc. Donc voilà un peu le travail que nous essayons de faire ici. Être un lieu qui offre de la programmation régulière et organisée artistique, être un laboratoire qui questionne les enjeux citoyens d'aujourd'hui.
Quel a été le premier spectacle ou la première expression artistique qui a eu lieu ici et dont la performance s'est tenue ici au Blamba?
Bon, et Blamba a une histoire, hein, parce que l'espace, l'équipement dans lequel nous sommes, ce n'est pas le premier Blamba. Il y avait un premier Blamba qui se trouvait à Faladja, que nous avions construit et rendu opérationnel en 2006. Ce lieu, le premier spectacle qu'on a présenté là-bas s'appelait Brunire invite à dîner. C'était un spectacle de Côte d'Ivoire écrit par Jean-Louis Savoie-Duveroux, un écrivain français, et moi-même, et qui a été mise en scène par un metteur en scène français aussi, et qui s'appelle Patrick Lemoff. Et c'est vraiment un spectacle fondateur même de la démarche de Blomba, qui a beaucoup investi dans la création et dans le développement des mécanismes traditionnels du spectacle vivant. Donc, Bourguignonnerie invite à dîner était vraiment dans cette lignée-là et qui était un spectacle de côté bas. Ici, dans ce lieu, c'est un spectacle de comédie musicale que nous avons créé qui s'appelle Horon, que moi-même j'ai écrit et mis en scène et qui a été vraiment le spectacle fondateur de ce lieu, mais qui est aussi le spectacle, on va dire générique, d'un grand programme d'éducation à la citoyenneté que nous sommes en train de mettre en place, qui s'appelle Horon aussi, ça veut dire le citoyen. Le citoyen. Donc voilà un peu ce spectacle-là que nous avons créé. À partir de là, nous avons reçu des résidences. On a des laboratoires de danse contemporaine, on a des laboratoires de stand-up, de l'humour, on a des laboratoires de théâtre, on a des labos aussi qui sont destinés aux arts urbains avec une petite école de disc jockey. Donc on a c'est vraiment on a un laboratoire artistique contemporain du Mali et peut-être même de la sous-région pour être un peu plus ambitieux. Mais pour l'instant, nous travaillons à faire bouger les lignes au Mali et à partir du Mali, vraiment nous ouvrir sur on va dire la perspective africaine et mondiale. Mais notre but, c'est vraiment de participer à la construction de cette nouvelle conversation mondiale qui se met en place et qui doit aboutir à un univers symbolique commun et à un enjeu commun qui est notre planète.
Voilà, des questions importantes hein, qui vous marquent et sur lesquelles vous insistez, la question de la citoyenneté, le rôle du citoyen justement dans sa communauté, mais aussi les enjeux climatiques pour la préservation de la planète. Sur ce point concernant la citoyenneté, pourquoi vous insistez tant là-dessus?
Parce que un des problèmes de nos pays africains, notamment les pays africains francophones de l'Afrique de l'Ouest, que je connais relativement mieux, c'est une question de manque de construction citoyenne. C'est-à-dire, nous sommes, on va dire, recroquevillés sur nos traditions ethniques et on a essayé de construire un monde moderne à partir de ces valeurs, entre guillemets, ces valeurs ethniques. Mais ça fait que dans nos pays qui sont relativement jeunes, on va dire très jeunes, il y a très peu de nos pays qui ont plus de 65 ans, ben nous ne sommes pas arrivés à créer un univers symbolique commun, commun à nous, en dehors des ethnies, en dehors des contingences du passé, et en dehors des liens affectifs et émotionnels qui nous a liés, on va dire, à la puissance colonisatrice, etc., etc. Moi, le travail que je fais, c'est de dire, il va falloir qu'on puisse mettre en place une matrice culturelle, un logiciel que nous partageons tous. Parce que je pars du principe que la culture, c'est un ensemble de liens, on va dire, d'intérêts émotionnel, intellectuel, de langage, qui permet de mettre en mouvement, dans la confiance, un groupe humain. Et le problème que nous avons, c'est que on n'est pas arrivé à créer cette matrice-là. Et ça fait que dans nos pays, il y a des Al-Qaïda culturels qui ne se parlent pas, où les gens décident d'aller se réfugier dans ces Al-Qaïda culturels. Elles sont souvent ethniques, souvent religieuses, souvent syndicales. Ou d'autres formes mafieuses de fonctionnement. Donc ça fait et contre l'État. L'État qui devient, on va dire, une institution étrangère à ces Al-Qaïda-là, où chacun essaye d'attraper, de dominer pour la rente publique que génère cet État. Mais on ne s'est pas dit qu'on peut créer une matrice qui va au-delà de ces contingences ethniques. On va dire du passé ou syndical ou qu'importe, et en lien avec l'État, pour représenter l'intérêt général. Et c'est ce travail-là que nous essayons de faire. Et ça ne peut pas se faire sans travailler sur le capital culturel des individus qui constituent ces pays. Donc nous, on essaie de mettre en place de la réflexion, le récit national sur la solidarité moderne, les outils de solidarité moderne, les institutions modernes, les organisations de collectivités locales ou publiques, etc., etc., au cœur du récit national. C'est-à-dire, je peux donner un exemple, faire une série sur une mairie, par exemple, ou faire une série sur la compréhension d'une collectivité ou d'un outil moderne de solidarité constitué d'assurance maladie ou d'assurance retraite. Des choses comme ça, des outils comme ça qui sont en dehors de tous nos récits nationaux. C'est-à-dire, quand on parle de nos récits culturels, là, on va dire, bon, au Mali, on va dire, ah, on est descendant de Sundiata, on est descendant de Damonzon, mais on n'entend jamais un récit autour d'une municipalité, un récit autour du Parlement, un récit autour d'un métier, etc., etc. Et c'est ce travail-là que nous essayons de faire et que moi, j'appelle l'univers symbolique commun moderne. Et si nous ne construisons pas cet univers-là, il va être difficile pour nous de créer des sociétés homogènes avec comme l'État accepté comme représentant de l'intérêt général.
Et qu'entendez-vous par Al-Qaïda culturel? Je viens d'entendre le mot là, dans vos propos.
Bon, ce sont des organisations qui sont mises en place de façon conjoncturelle et les gens y adhèrent pour... se sentir en sécurité. On voit très bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations qui se construisent autour d'un leader religieux. Il y a des organisations qui se construisent autour de ce qu'on appelle une ethnie. Il y a des organisations qui se construisent autour, par exemple, d'un syndicat. Et il y a des organisations qui se construisent autour maintenant de... on va dire d'amis amicales et tout. Mais ces organisations, et comme les gens ne se sentent pas sécurisés par l'État, parce que le lien qu'on a avec l'État, c'est la police, la gendarmerie, et le citoyen lambda, le lien qu'ils ont, c'est des liens de corruption. Le policier t'arrête, demande tes papiers ne sont pas à règle ou sont anti, je ne sais pas, la date est dépassée, tu donnes 1000 francs pour te... Ce sont ces liens-là qu'on a avec le truc. Donc on n'a pas un lien sécurisant avec l'État. Or, avec ces organisations, les gens de plus en plus se sentent en sécurité, même si c'est une sécurité éphémère, c'est en sécurité. Et donc, ils se réclament de ces lieux, de ces espaces, et pour se sentir sécurisés. Et aussi bénéficier de la solidarité des membres de ces organisations. C'est pourquoi je les appelle des Al-Qaïda culturels. C'est-à-dire que ce sont des organisations auxquelles les gens se réclament, alors qu'en réalité, la sécurité, il n'y est pas permanente. Maintenant, la réalité au Mali, c'est que c'est devenu de vrai Al-Qaïda. Parce qu'aujourd'hui, au centre et un peu au nord, ben, ces organisations, il y a des organisations qui existent, qui se réclament de l'État islamique, qui se réclament d'autres organisations ethniques, comme c'est le cas des rebelles au nord. Et ben, ils ont créé un univers symbolique à eux, et de forme d'Al-Qaïda culturel avec lequel ils ont pu construire un récit et ben, ils ont l'adhésion d'un public et qu'ils utilisent pour déstabiliser le pays et c'est ce qui est le cas aujourd'hui.
Et pour vous, il faut passer aussi par la culture pour faire passer le message et sensibiliser.
Ce n'est même pas sensibiliser seulement, c'est construire pour qu'on ait des valeurs communes intériorisées et parce que c'est par là que nous développons notre capacité à coopérer. Parce que le capital culturel d'un individu détermine sa qualité de producteur, sa qualité de consommateur, sa capacité de coopérer avec l'autre, mais aussi son émotion, son intelligence émotionnelle. Et ça, si on a ces définitions-là structurées dans un individu, plus son capital culturel est riche, plus il est en capacité de se mettre avec des gens de façon intelligente et de construire une société cohérente. Ce qui n'est pas le cas. Et aujourd'hui, nous essayons de travailler.
C'est la réponse que vous apportez.
Oui, Bloma essaie de travailler en fait en laboratoire ces questions-là et voir comment la culture, qui est le logiciel d'un individu et d'une société, puisse vraiment contribuer à faire que les gens commencent à se parler, commencent à coopérer et construisent des liens d'intérêt qui va leur permettre de se mettre en mouvement ensemble et en confiance.
Revenons à votre parcours, réalisateur, metteur en scène et écrivain. Et vous avez passé une grande partie de votre vie en France, c'est ça?
Bon, une
Une
partie de ma vie
partie.
active en France, j'ai fait mes études ici au Mali. J'ai fait mon lycée ici au Mali. J'ai fait Normale Sup, histoire ici. Et puis en France, j'ai fait cinéma, réalisation audiovisuelle. Et j'ai fait aussi mes études post-universitaires là-bas à la Sorbonne Nouvelle et aussi à la formation internationale culture. Donc, qui m'a permis quand même d'affirmer un peu ma connaissance et ma compétence sur la question de la production et de la diffusion culturelle et de l'ingénierie culturelle aussi. Donc, j'ai eu à travailler en Europe un peu et c'est pendant. Et en 2002, j'ai décidé de rentrer au Mali et de m'installer.
Voilà, donc en 2002, vous décidez de rentrer. Comment se passe déjà ce contexte-là, déjà en début des années 2000, la naissance du Blomba, et après, il y a eu justement toutes ces crises sécuritaires qui éclatent vers 2012, par là. Alors, parlez-nous de tout ce cheminement.
Bon, en 2002, je rentre au Mali, je commence à travailler à la chaîne nationale comme réalisateur. J'avais une vision de ce que pouvait être la ligne éditoriale d'une chaîne publique, d'une chaîne de télévision publique. Je ne suis pas arrivé à faire partager cette vision par la direction qui était en place. J'ai démissionné. Et puis essayer de créer ma propre structure de production. Et c'est ce que j'ai fait. Mais avant la mise en œuvre de ma nouvelle structure, j'ai passé un an comme directeur adjoint du Centre culturel français. Et puis, quand j'ai pu réunir les moyens de construire un lieu et de mettre en place cette structure-là, j'ai démissionné de là-bas pour créer officiellement Blomba. Blomba qui est une agence de production et d'ingénierie culturelle au nom administratif Wokloni. Wokloni, c'est le nom des dessins animés que nous donnions aux personnages des dessins animés quand on était adolescent. Et mon ambition, c'était de mettre en place les bases d'une industrie créative et culturelle au Mali, à partir d'une industrie de dessins animés, aussi d'une sorte de laboratoire aussi de spectacles vivants et de programmation régulière. Donc j'ai créé une première salle à Faladier. Et les événements de 2012 ont vraiment, on va dire, perturbé fortement le mécanisme que j'avais mis en place, qui a fait que le modèle économique que j'avais mis en place s'est écroulé. Et j'ai dû fermer cette salle. Et puis, au bout de 7 ans, j'ai essayé de rendre opérationnel le studio de dessin animé que j'avais commencé à mettre en place, et puis ce nouveau lieu dans lequel on est. Donc, le studio de dessin animé, je n'ai pas pu parce que ça demandait beaucoup de moyens et que l'État malien ne m'a pas facilité la tâche et j'ai dû lâcher prise. Concernant ce projet, et puis je me suis concentré sur ce lieu et le complexe culturel Blomba pour pouvoir faire de telle sorte que je puisse quand même pas lâcher tout le projet que j'avais en tête en revenant au Mali. Donc c'est ce que j'ai fait. Et bien sûr, aujourd'hui, nous traversons un moment de difficulté qu'il faut reconnaître, il faut pas se le cacher. Que je n'avais jamais envisagé dans mes pires cauchemars. On essaye de prendre acte de la situation et de trouver des solutions pour nous en sortir.
C'est ça. Alors, vous allez nous expliquer exactement ce que vous vivez. C'est vrai qu'il y a eu cet épisode en 2012. C'était l'une des premières difficultés avec l'éclosion de cette crise sécuritaire. Déjà là, c'est un premier défi majeur auquel vous faites face. Et comment vous arrivez à pouvoir surmonter ce moment. Et jusqu'à aujourd'hui, on assiste encore à cette crise énergétique ici au Mali. Alors, parlez-nous justement de ces deux moments-là qui se sont passés justement dans votre parcours.
Oui, je disais en 2012, il y a, avec le premier coup d'État entre ATT, ben, tout le mécanisme qui était très fragile parce que ici au Mali, la culture n'est pas considérée comme quelque chose d'important. C'est-à-dire, on l'a limité au folklore et à la tradition. Et donc, le mécanisme que j'avais mis en place, le modèle économique que j'avais mis en place, s'est trouvé considérablement affaibli. Et donc, j'ai dû me résoudre à fermer et à libérer la trentaine de personnes que j'avais en emploi. Donc, j'ai essayé de faire redémarrer le projet de dessin animé qui était en cours et tout. J'ai dû lâcher ça aussi. Et j'ai dû me concentrer sur ce lieu que j'avais eu, de la mairie, cet espace d'environ 1 hectare, et pour développer, en tout cas, un lieu, un laboratoire. C'est ce que j'ai fait et on est arrivé à investir jusqu'à 800 millions pour pouvoir mettre en place en tout cas les murs d'ici et puis à le rendre progressivement et opérationnel avec la ligne, les enjeux que nous avons pensé en termes de construction citoyenne. Et c'est ça qui était en cours. Et nous avons malheureusement mis en place aussi un mécanisme qui s'est avéré fragile, c'est-à-dire c'était un mécanisme d'économie, un modèle économique hybride, économie de marché, économie de subvention. Et comme nous démarrions, l'économie de subvention avait une place plus importante, c'était 75% de nos recettes. Et nous dépendions dans cette frange de nos recettes beaucoup d'organismes français, c'est-à-dire l'AFD et l'Institut français, le département des Saônes. Et qui, on va dire, réunissait 75% de nos recettes issues de subventions. Et à un moment donné, dans la tension entre, dans la relation entre la France et le Mali, le Mali a décidé, par un décret du président, d'interdire les organisations qui bénéficient du soutien d'organismes français.
Dans le temps, quelle année?
Et là, il y a 2 ans, on était en 2022, on va dire, et puis qui nous fait perdre 75% des recettes de subventions que nous avions. On était sur un grand programme qu'on avait lancé à l'époque d'un mois et on a été obligé d'arrêter ce programme et de mettre 61 personnes au chômage. Et de réduire aussi les activités de ce lieu, Blomba, parce que nous, comme on dit, on est un laboratoire, on faisait des résidences de création, on accompagnait des jeunes femmes, on avait une école et tout. On a dû arrêter tout ça pour vraiment faire un programme à minima et permettre quand même de maintenir le lieu ouvert. Et il se trouve que dans cette étape-là, et les coupures de courant sont venues aussi se greffer au problème et qui a fait que nous avons surutilisé le groupe que nous avions. Et ce groupe, malheureusement, a pris feu. On n'était plus en capacité de continuer notre activité. Ben, on a dû arrêter. Et c'est ça qui explique la fermeture provisoire. On espère brièvement provisoire des lieux.
Voilà, donc c'est vraiment ce problème-là du groupe électrogène qui a vraiment arrêté toutes les activités ici au Blomba. Et c'est clair que dans cet élan, vous êtes en ce moment en quête de solutions pour pallier ce problème. Quelle est justement votre stratégie pour surmonter cette période-là que vous vivez en ce moment?
Bon, pour l'instant, et pour essayer de garder les quelques techniciens que nous avons sous la main, nous avons lancé une petite campagne qui s'appelle Ciné à domicile. Donc, nous nous faisons un peu financer par le grand public, les gens qui ont le moyen, entre 15 000 francs et 1 million, selon les moyens des uns des autres. On se fait inviter sur une place publique, une cour, un toit de maison, et on va y installer une salle de cinéma pour diffuser mon dernier long métrage qui s'appelle Tan. Et donc, ça nous permet de nous maintenir en activité mais aussi de produire quelques recettes qui permettent à 3-4 personnes qui sont qui qu'on a en fait qui sont au chômage, mais on essaie de créer quelques revenus réguliers pour ces gens-là, pour qu'ils se sentent un peu valorisés, un peu sur cette activité qui est en cours. Maintenant, nous sommes en train de travailler. On a ouvert des négociations avec beaucoup d'organismes pour voir comment nous pouvons mettre les forces des uns et des autres ensemble pour créer un programme et redémarrer les saisons Blomba, quoi.
Et ici au Blomba, si on veut vraiment faire la comparaison avec la période où ça fonctionnait, quand il y avait l'électricité au top, en termes de recettes, est-ce qu'on peut avoir une idée des recettes que vous faisiez et puis aujourd'hui, ce que vous perdez par jour?
Bon, en recettes, l'essentiel de nos recettes viennent des subventions. Comme j'ai
Ok,
dit,
ok.
75% de nos recettes viennent des subventions. Maintenant, les
Ouais.
25% des recettes que nous avions, c'était la location de la salle et, comment dirais-je, les tickets qu'on vendait et tout, etc. Et ces 25%-là, on va dire, c'était entre 800 000 et 1,5 million par mois de recettes qu'on faisait. Avec les entrées, les activités et tout. Mais maintenant, il y a des moments de pic,
D'accord.
c'est-à-dire des moments où il y a beaucoup de mariages. Et donc, les mariages, ils sont vraiment dans notre marché, dans notre économie de marché, les mariages font beaucoup de recettes. Et là, on peut atteindre entre 3-4 millions par mois
Quand
de
vous parlez de
recettes.
mariage, c'est-à-dire vous abriter.
Oui, on loue la salle. Et on offre ce qu'on appelle des packages pour le mariage, un griot, comment dirais-je, le
La sono.
maquillage, la salle, la sono. En fait, on offre un package. Et
Ouais. DJ.
tout, le DJ, un groupe de musiciens ou un humoriste et
Ouais.
tout. Mais la personne choisit le
Ouais.
package et puis on vend ces packages-là. Là, ça marche.
Ouais.
Parce qu'il y a des moments de pic de mariage au Mali et nous arrivons vraiment à proposer des choses qui marchent bien. Mais tout ça est impossible aujourd'hui parce que pour faire ça, il faut de l'électricité. Nous l'avons pas. Le groupe qui nous permettait de l'avoir, on l'a pas. Donc on est en train de repenser à notre formule, voir si l'équipement peut être avoir comme principale source énergétique le
Solaire.
solaire. Bon, ça coûte énormément cher, mais nous travaillons à cela.
Alors donc l'une des solutions aujourd'hui selon vous c'est vraiment l'énergie solaire. Voilà, vous voulez vous pencher vers cette énergie renouvelable pour permettre à ce que l'électricité soit en permanence ici au Blomba. Et dans ce sens-là, vous avez entamé déjà certaines démarches.
Oui, bon, on a travaillé. Bon, déjà, on a ouvert des discussions avec les banques, qui sont aussi nos partenaires, parce qu'ici, il faut préciser qu'il y a beaucoup de prêts bancaires qui ont contribué à construire le lieu. Nous avons aussi des négociations avec des services de coopération qui sont en cours, et qu'on essaie de convaincre, d'accompagner un peu cette démarche-là. Et ça, c'est pas simplement pour Blomba. Nous, Blomba, en fait, c'est un des quatre dispositifs du programme global que nous portons qui s'appelle Horon, citoyen, tu vois. Et donc, nous espérons pouvoir aussi faire que l'énergie solaire sera, on va dire, la base de toutes les sources d'énergie que nous allons mettre en place par rapport au Festival des Masques et Marionnettes, qui est un des dispositifs de notre programme. Nyana Dietama, qui est un dispositif d'équipement itinérant qui nous permet d'amener du théâtre, de la télévision, du cinéma dans les territoires les plus reculés qui n'ont pas souvent accès à la culture. Donc c'est tout ça là qu'on va mettre en place et faire que les choses puissent fonctionner un peu doucement, doucement, quoi.
Et pourquoi vous ne faites pas le choix de renouveler, on va dire, ce groupe électrogène qui est endommagé, d'acheter un nouveau?
Ben, on va être obligé d'acheter un nouveau. Le problème, c'est toujours un problème de on va dire de moyens financiers. Mais on va pas s'arrêter
C'est
seulement au
ça.
groupe. On va tirer les leçons de ce que nous avons vécu Et à partir de là, si nous arrivons vraiment à créer une autonomie en termes de desserte énergétique, le solaire sera vraiment un choix judicieux. Comme ça, on aura une source énergétique hybride, thermique et solaire. Et en espérant que le solaire puisse prendre une plus grosse part, c'est-à-dire le Mali est un pays de soleil, et pourquoi ne pas profiter de ça?
Voilà. Et en même temps, je sais qu'au départ, au début de l'interview, vous parliez aussi des axes sur l'environnement, hein, ces questions-là également que vous mettez en lumière à travers votre vision artistique et tout. Et donc, je pense que le choix justement pour cette source d'énergie va sûrement vous accompagner dans votre mission, hein, de travailler pour une planète beaucoup plus préservée.
Oui, parce que moi, depuis, on va dire depuis 2006, nous avons développé un plaidoyer dans ce sens. Nous, on va plus loin. Nous, on est parti même auprès des hommes politiques pour leur vendre le projet de faire un programme bancaire, c'est-à-dire que l'État subventionne des garanties bancaires et auprès de ménages pour que les ménages se dotent de petites centrales thermiques solaires. Ça, c'est en 2006. Depuis 2006, nous tenons ce langage, ce projet. Et je pense que ça fait partie des solutions de sortie de crise énergétique du Mali. Mais maintenant, ça, et bon, la meilleure manière, c'est d'en être des exemples concrets. Et donc, nous pensons pouvoir être un exemple concret. Moi, personnellement, chez moi, je fonctionne en énergie solaire depuis, on va dire, 10 ans. Et Blomba, on n'était pas arrivé à le faire parce que ça, c'était relativement cher. Mais aujourd'hui, ben, c'est moins cher par rapport à ce qu'on vit. Et donc, chaque fois que nous allons entrer en négociation avec des partenaires et la structuration budgétaire qui va être proposée, ben, l'énergie solaire va avoir une grande place là, dans cette structuration budgétaire.
Voilà, et parlons de crise et aussi de culture et d'art, vous avez pris part à un atelier récemment au Sénégal. Qui portait sur ce sujet, hein, mais qui mettait l'accent sur des réflexions et aussi des visions des différents acteurs culturels que vous êtes. Au sortir de ces jours, hein, ces, je crois 3 jours, hein, 3 ou 4 jours, hein, d'échanges, de réflexions. Alors, vous, comment vous analysez désormais vos projets? Et puis, comment est-ce que tout ce que vous avez pu échanger, toutes ces expériences aussi partagées, comment tout cela peut être capitalisé véritablement?
Bon, ça a été une bonne chose. Ça a été je n'ai pas regretté d'avoir fait ce déplacement. Et mon objectif, quand j'ai lu les TDR du séminaire, ce qui a immédiatement retenu mon attention, c'était cette rencontre sur les outils d'évaluation. Et donc, comme je vous ai dit, nous, on travaille sur un grand programme d'éducation à la citoyenneté avec la culture comme outil essentiel. Ce qui aurait été intéressant pour nous, c'est de pouvoir, dans nos rapports, faire sortir l'impact du programme sur la société malienne. Donc, on disposait de peu d'outils pour pouvoir vraiment crédibiliser le rapport que nous voulons faire, pour montrer soit que ce que nous avions imaginé, on ne l'a pas atteint, ou ce que nous avions imaginé, on l'a atteint, peut-être même dépassé. Et donc, des outils objectifs pour nous permettre de pouvoir questionner l'impact de notre projet, on n'était pas sûr de les avoir tous. Et je pense que le séminaire m'a permis d'avoir une idée de comment construire avec mon équipe de suivi et évaluation ces outils-là. Et ce séminaire m'a vraiment servi à ça. Et après, ça a servi aussi à peaufiner mon réseau d'opérateurs sur l'Afrique. Mais ça m'a permis aussi de mettre en débat le projet que je porte ici au Mali. Et aussi d'identifier des expertises que je ne pensais pas trouver en Afrique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a servi. Et je ne regrette pas d'avoir fait le déplacement.
Et puis face aux crises, vous avez pu avoir peut-être des outils dans les réflexions ou des échanges, des partages d'expériences qui pourront vous aider justement à être plus résilient aussi.
Oui, dans ce cadre-là, comme je l'ai dit, c'est les outils d'évaluation qui m'ont servi. Mais comme moi, je suis dans la résolution de la crise, en
C'est
fait,
ça.
moi, je suis dans la production d'une solution
Ouais.
devant un dysfonctionnement structurel. En tout cas, une situation que je trouve qui est un dysfonctionnement structurel et qui ne date pas d'aujourd'hui. Les gens voient le résultat de la crise, par exemple, multidimensionnelle du Mali. Maintenant, moi, je le vois depuis 1960. Et donc, le Mali a subi des ruptures institutionnelles et régulières qui ont fait que des programmes qui étaient mis en place, pensés et tout, ont disparu et qui ont fait que les choses n'ont pas trop avancé dans le pays. Et chaque fois qu'un programme disparaît, ça crée un vide et ce vide devenait des problèmes supplémentaires pour aggraver nos crises. Et donc, ça, moi, je l'ai identifié et je me suis dit, quelle sera la part de la culture dans la résolution de cette crise? Et c'est sur ça que je travaille. Donc, crise culture. Ben, c'est vraiment la base de ma démarche au Mali depuis 2000, on va dire 2004. Et les productions que j'ai faites, les programmes d'éducation à la citoyenneté que j'ai contribué à créer au Mali, des œuvres que j'ai contribué à créer sur ces questions-là, les artistes que j'ai contribué à développer et qui ont pris comme ligne éditoriale ces enjeux. Mais on a fait beaucoup de choses. Donc, c'est un lien que nous avions dans notre démarche. Et bien, le séminaire nous a renforcés dans cela. Et puis, j'ai partagé mon expérience avec les uns les autres. J'espère que ce partage-là les a servis, comme eux aussi, ils m'ont permis de comprendre certaines choses.
Merci beaucoup, Aliou Ndiaye.
Merci, Koulouali. C'est un plaisir.
Et puis voilà, maintenant nous allons visiter quelques pièces du Blomba.
Ok.